I am your voice.
Nous sommes deux vieilles nations dans le monde.
Le Royaume-Uni et la France.
لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء
بالدم
تكون لعنة عليكم
نبديك يا أقصى.
إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها.
بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، فهم لكم ولأولادكم.
Vous écoutez L'Histoire en Marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Hahel et Mariam Abdou, pour vous accompagner au micro. Dire que la presse est indispensable dans une démocratie n'est pas un secret que l'on révèle. Ce n'est pas non plus une découverte devant laquelle l'on doit s'extasier, ou du moins plus en 2026. Toutefois, celle-ci, la presse en l'occurrence, doit s'adapter aux transformations du monde contemporain pour préserver sa liberté, sa fiabilité et sa légitimité. Dans un contexte marqué par la mondialisation, les conflits d'intérêts, la montée des réseaux sociaux et la circulation rapide des informations, les médias sont devenus des acteurs majeurs du champ politique et géopolitique. Ils peuvent soutenir le débat démocratique, mais aussi servir d'outils d'influence, de propagande ou de rivalité entre puissances. Dès lors, l'on peut se demander dans quelle mesure les médias participent à la construction, à la diffusion ou à la contestation des rapports de pouvoir politique et géopolitique. Le 14 décembre 2008, en signe de protestation contre la politique américaine en Irak, Muntadhar Zaidi lance ses deux chaussures sur George Bush lors d'une conférence de presse à Bagdad. L'épisode a eu un énorme retentissement international. Le journaliste a ensuite été condamné à 3 ans de prison avant d'être libéré plus tard en 2009.
A farewell visit to Baghdad by President Bush and threw two shoes at the president during a press.
C'est un cadeau des Irakiens, c'est le baiser de l'adieu.
George Bush n'en espérait sûrement pas tant. Deux chaussures lancées en plein sur lui par ce journaliste irakien pendant une conférence de presse. L'homme est évacué manu militari, le président américain lui relativise.
C'est une façon pour les gens d'attirer l'attention. Je ne sais pas ce que défend cet homme, mais je n'ai pas ressenti la moindre menace.
Avec nous en ligne à partir de Bagdad, Muntadhar Zaidi, le journaliste en question. Saïd Muntadhar Zaidi, shukran li hudurikum ma'ana. Monsieur Muntadhar Zaidi, en 2008, vous lancez vos deux chaussures sur Bush lors d'une conférence de presse à Bagdad en criant « C'est le baiser de l'adieu du peuple irakien ». سيد منتدر الزايدي في 2008 رميت حذائك على الرئيس بوش أثناء مؤتمر صحفي في بغداد وصرخت في وجه الرئيس الأمريكي هذه قبلة الوداع باسم الشعب العراقي.
أولا شكرا لك ولجمهور إذاعتكم.
Avant toute chose, mes salutations. Je salue également les auditeurs, ma famille, mes amis, mes frères en Algérie, cette terre chère à mon cœur que je considère comme mon deuxième pays. Et sans aucun doute, ce geste était une réaction naturelle de tout citoyen irakien face à l'occupation, quelle qu'en soit la forme de résistance politique, militaire, médiatique. Et moi, j'avais l'honneur de faire partie des élites engagées dans la résistance médiatique et académique contre cet occupant. En fait, nous avons fini par comprendre que ce que nous écrivons ou publions restait en intramuros. Dans notre pays, le monde ignorait ce que vivait réellement l'Irak. Les drames, les souffrances, les ravages causés par cette occupation odieuse sur notre patrie meurtrie. Alors, ce baiser d'adieu, comme je l'ai appelé, lancé à George Bush, c'était un cri. Un cri pour obliger le monde à regarder de face ce que cet occupant avait fait à l'Irak sous le prétexte de la démocratie.
هذا التصرف وصف بأنه تصرف جريء السيد منتدر الزايدي. استسمحك سوف أعيد السؤال باللغة الفرنسية كذلك. Cette démarche, votre démarche a été qualifiée de démarche audacieuse, سيد منتدر الزايدي.
Je pense que lorsqu'un million d'Irakiens ont été tués, que 5 millions de personnes ont été déplacées et que 5 millions d'enfants se sont retrouvés orphelins, privés de leur père, le minimum était de répondre à cet occupant. Cet occupant qui affirmait que nous l'accueillerions avec des fleurs, et le monde a cru à ce mensonge, moi, je cherchais simplement une manière forte, mais qui va dans le sens contraire de cette image, de manière à affirmer que les Irakiens, ou même une partie des Irakiens, n'accueille pas l'occupant avec des fleurs.
Le travail journalistique est une résistance continue aussi, Saïd Montadr Zaidi.
Dans les pays qui subissent une agression, chaque citoyen, quelle que soit sa condition, sa classe sociale ou son métier, doit entrer en résistance. Chacun résiste depuis sa place, depuis son terrain, depuis sa profession. L'imam résiste depuis sa tribune. Le journaliste résiste par sa plume. L'intellectuel résiste par sa poésie, par sa pensée. Chaque être humain doit devenir résistant lorsqu'un pays est occupé, lorsqu'une nation est encerclée par l'occupation. Patient. Le journaliste ne peut pas être aveugle à ce qui se passe dans son pays. Il ne peut pas être un faux témoin, ni un simple observateur passif. Il fait partie prenante de cette réalité et il en porte aussi la responsabilité. Savez-vous, madame, que parmi les crimes et les violations commis par les États-Unis en Irak, plus de 167 journalistes ont été tués? Dans de telles conditions, tout doit devenir une arme, la parole, la plume, la main et la poudre.
هو أداة المقاومة التي تستعمل من طرف الصحافي القلم et ce qui a été créé en premier dans l'univers. Est-ce que vous considérez al-qalam, je reprends l'expression al-qalam, comme un moyen de lutte des journalistes?
لا تنسي نحن في زمن العولمة والإعلام.
N'oublions pas que nous vivons aujourd'hui à l'ère de la mondialisation et que les médias exercent une influence immense aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des pays. Nous faisons face en vérité à une offensive intellectuelle et culturelle de grande ampleur menée par l'impérialisme mondial et les nouvelles formes de colonisation. Dans cette bataille, la plume, la parole et les médias représentent la moitié du combat, sinon les trois quarts. C'est pourquoi je suis convaincu qu'aujourd'hui, la véritable La bataille est davantage une bataille de plumes qu'une bataille de missiles, de chars ou de drones.
بعد حادثة رمي الحذائين على الرئيس بوش ألقي القبض عليك سيد منتدر الزايدي ألقي القبض عليك فورا وحكم عليك بسجن 3 سنوات بتهمة الاحتداء على رئيس دولة أجنبية قبل أن تخفف يعني العقوبة إلى سنة تقريبا رغم ذلك استمرت في ممارسة مهنتك الصحفية Après cet incident vous avez été arrêté et vous avez été condamné à 3 ans de prison Vous avez accompli une année en prison, mais vous avez tout de même poursuivi votre travail.
En réalité, on ne m'a pas laissé le choix. Je n'ai pas pu être, comme vous le dites, ou comme certains l'imaginent, simplement un journaliste exerçant normalement sa profession. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été réduit au silence sur le plan professionnel. On ne m'a plus permis de travailler dans le journalisme comme auparavant. C'est l'une des épreuves que je traverse aujourd'hui. Ce qui a changé, malheureusement, c'est qu'il n'est plus permis à Azaidi d'exercer dans la presse. Un simple appel politique a suffi pour empêcher Montadar de travailler dans les médias et dans le journalisme. Voilà la réalité aujourd'hui et c'est profondément regrettable. Mais je le dis et je le répète, je ne le regrette pas. Hein.
Mais en dépit de cela, là je vais rebondir à ce que vous nous disiez à l'instant, Saïd Montadr Zaidi. Vous avez participé tout de même aux élections législatives de 2018. Comment, dans ces conditions, peut-on passer de journaliste à politicien ou à politique? بالرغم من هذا السيد منتدر الزايدي أصبحت اليوم في العديد من الدول العربية رمزا للمعارضة ضد الوجود الأمريكي في العراق يعني ولكن مع الانتخابات التشريعية في 2018 شاركت في هذه الانتخابات كيف يمكن تفسير انتقالك إلى الساحة السياسية؟
أولا
D'abord, en 2018, il n'y avait pas d'occupation dans notre pays. Ensuite, beaucoup d'amis me disaient « Pourquoi restes-tu seulement dans la dénonciation et la critique? Pourquoi ne pas essayer de changer les choses de l'intérieur ?» Et c'est précisément ce qui s'est passé. J'ai voulu avoir un véritable rôle dans le changement, pas seulement à travers les mots. Et puis, il y a un point essentiel. Pourquoi exige-t-on toujours du journaliste qu'il soit uniquement témoin des événements sans jamais être acteur ? Quand un médecin entre en politique, cela paraît normal. Quand un ingénieur, un avocat, un religieux, un cheikh par exemple, ou même un artiste s'engage politiquement, personne ne s'en étonne. Mais dès qu'un journaliste franchit ce pas, on lui demande « Pourquoi es-tu entré en politique ?» Toi, ton rôle est seulement de rapporter les faits. Eh bien, ce raisonnement est faux. Le journaliste est sans doute la personne la plus proche du cœur même de la décision politique, du laboratoire politique, si j'ose dire, du terrain politique. C'est lui qui accompagne les événements, qui vit au milieu des rouages de l'action politique à l'échelle arabe, régionale, internationale et même locale. Il comprend donc intimement les mécanismes du pouvoir et de la politique. Et au-delà de cela, on ne peut pas séparer le citoyen, l'être humain, et le professionnel comme s'il s'agissait d'identités distinctes. On ne peut pas demander à un journaliste d'être journaliste toute sa vie au point de lui interdire toute participation à la vie publique sous prétexte qu'il devrait rester neutre. Parce que cette neutralité est un grand mensonge. Nous ne pouvons pas être neutres face à la souffrance des citoyens. Nous ne pouvons pas être de faux témoins devant leur douleur. Personnellement, je refuse de me dépouiller de mon humanité lorsque des citoyens arabo-musulmans sont bombardés à Gaza, par exemple, et de traiter cela comme on traiterait une guerre lointaine entre la Grande-Bretagne et l'Argentine pour les îles Falkland. Gaza fait partie de ma conscience, de mon histoire, de ma cause. On ne peut pas arracher un être humain à sa cause simplement parce qu'il exerce tel ou tel métier. Oui, porter la vérité implique aussi le risque de l'erreur, mais le journaliste ne doit jamais être un faux témoin. Il doit avoir des positions dans la vie, non? Car au fond, la vie elle-même n'est faite que de positions de fierté.
Sayed Montadar Zaidi, أذكر للمستمع بأنك صحفي عراقي. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes journaliste irakien. Vous avez été condamné à 3 ans de prison pour avoir lancé vos chaussures sur le président américain George Bush, et l'auditeur algérien doit s'en rappeler. Sayed Montadar Zaidi, ربما السؤال يطرح بالنسبة للتنقل من الصحافة إلى السياسة لأن السياسة عادة ما تقيد الصحافي. Je vous pose la question, Monsieur Montadar Zaidi, de votre passage du métier de journaliste à celui de politique, car souvent le journaliste est ligoté par la politique.
Bien sûr, tout le monde craint la vérité, qu'il s'agisse d'individus, de groupes ou même de pouvoirs politiques, tous redoutent la vérité. Et tant que domine le mensonge, l'hypocrisie, la corruption, la soumission, la trahison, alors toute voix qui dérange les corrompus et expose les déviances du système devient forcément un signal d'alarme pour tout ce qui est déséquilibré, immoral ou hors de contrôle. Naturellement, une telle voix devient détestée, rejetée, qu'elle soit d'un journaliste, d'un militant politique ou même d'un député. Pourquoi toutes ces positions et ces intimidations? Parce que le mal est aujourd'hui le plus fort. C'est lui qui détient le pouvoir, la répression et les instruments de domination. Ce sont des outils du mal. Et quels sont en face les outils du bien? L'appel à la conscience, la voix, la parole. Et au final, la lutte contre le diable reste dans ce monde d'ici-bas du moins une bataille presque perdue d'avance. Les hommes mauvais disposent d'armes sans morale, alors que ceux qui défendent la vérité ne possèdent, eux, que de moyens éthiques. C'est pourquoi, lorsque tu affrontes avec tes principes des gens qui n'en ont aucun, attends-toi à subir une défaite amère. Mais l'histoire, elle, finira par te rendre justice. Et tôt ou tard, tu remporteras au moins une victoire morale.
أثناء سجنكم سيد منتظر الزايدي تعرضتم إلى التعذيب وتعذيب يعني رهيب وعلى مدة أيام طويلة ولكن هذا لم يؤثر عليكم مباشرة، كيف كان هذا؟ هذا الجزء الأول من السؤال. والجزء الثاني من السؤال، هل أمام فشل القلم السيد منتدر الزايدي تبقى السياسة اليوم هي الحل؟ Vous avez été pendant votre incarcération torturé, beaucoup et longtemps torturé, mais ceci ne vous a pas dissuadé. Est-ce que devant l'échec du journalisme, la politique est la solution ?
Pas toujours. D'abord, concernant la torture, il y a ce vers attribué à l'émir des croyants, Ali ibn Talib, tout ce qui est en deçà de la mort est supportable. C'est une conviction que j'ai toujours portée en moi tant qu'on n'atteint pas le martyr. Tant qu'on n'atteint pas la mort, tout le reste demeure relatif. On peut endurer la torture pour une cause, pour une patrie, et puis nous vivons déjà une forme de torture quotidienne, la souffrance psychologique. Et croyez-moi, la souffrance morale est parfois bien plus dure que la souffrance physique. Concernant la seconde partie de votre question, dans les pays où la liberté d'expression est réelle, la plume est plus forte que la politique. Chez nous, il faut reconnaître une chose. Aujourd'hui, nous disposons bel et bien d'une marge de liberté d'expression. On ne peut pas le nier. Personnellement, j'ai choisi de dire la vérité, même lorsqu'elle me dérange moi-même. Nous avons une marge de liberté relativement large, mais cette liberté reste encerclée, assiégée par les armes électroniques du pouvoir. Dès qu'on critique une autorité, une politique corrompue ou un ministre corrompu, on se retrouve face à une campagne organisée, fondée sur ce qu'on appelle dans les médias le sophisme de l'homme de paille. C'est-à-dire que lorsque vous parlez d'un problème, d'une corruption ou d'un dysfonctionnement dans les institutions, une armée numérique se mobilise non pas pour répondre à vos idées ou à vos arguments, mais pour vous attaquer personnellement. On répand alors des rumeurs à votre sujet, on vous transforme en démon, on cherche à salir votre réputation, et au final, le citoyen influencé par l'opinion publique finit par se dire « cet homme est controversé, il est entouré de soupçons, et forcément, votre crédibilité s'effondre aux yeux de beaucoup de gens, alors même que le fond de votre parole n'a pas été réfuté. Nous faisons face à une véritable crise morale dans les sociétés arabo-musulmanes. Nous sommes musulmans en apparence, mais parfois mécréants dans le secret. Nous nous prétendons démocrates devant les autres, mais nous portons souvent la dictature en nous-mêmes. En face à face, nous savons être polis, respectueux, bienveillants. Mais derrière les écrans et sur les réseaux sociaux, certains se transforment en prédateurs féroces. Voilà la véritable crise. Comment expliquer qu'une personne puisse, dans la rue, vous dire « Je respecte votre opinion même si je ne suis pas d'accord avec vous ». Puis, devenir quelques heures plus tard sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui vous traîne dans la boue, vous insulte, vous accuse, vous diabolise. Et pourtant, cette même personne n'oserait jamais prononcer ces mots en face. Pourquoi ? Parce qu'au fond, nous traversons une crise éthique et sociale profonde.
سيد منتدر الزايدي، شكرا جزيلا لحضوركم معنا ولقبول الدعوة.
شكرا جزيلا، تحياتي لك.
تحيات متبادلة، شكرا سيد الزايدي.
مع السلامة.
منتدر الزايدي جورناليست إيراكيان، il a été condamné à 3 ans de prison pour avoir lancé ses chaussures, rappelez-vous, contre le président américain George Bush. منتدر الزايدي était avec nous à partir de Bardad.
Clarissa Ward, elle est régulièrement accusée par des internautes et par ses détracteurs de diffuser de fausses informations. Ici, cet internaute l'appelle la reine des fausses nouvelles. Il diffuse notamment cette vidéo où on la voit lors d'un reportage à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, en plein direct, complètement allongée par terre parce qu'il y a eu une alerte à la bombe.
À travers le monde, les exemples d'une presse en déliquescence sont hélas légion. Les mises en scène de journalistes de grandes chaînes lors de séquences fabriquées par des gestes et des cadrages orientés deviennent une pratique consenti. En décembre 2025, la libération d'un prisonnier à Damas a fait polémique. CNN présente un homme affaibli, libéré de l'une des plus sinistres prisons syriennes, Saïd Naya.
I'm shaking, my face is shaking, he says. The rebel tells him there's no more army, no more prisons, no more checkpoints. Are you serious, he says? Suria Harra. Syria is free, he tells him.
L'image fait le buzz du moment. mais est aussitôt démonté par des vérificateurs qui affirment qu'il s'agit en réalité d'un ancien officier des renseignements impliqué dans des arrestations et des tortures.
Depuis les révélations sur l'identité de l'homme, CNN n'a pas pu rétablir le contact avec lui et ignore où il se trouve.
En 1991, Peter Arnett diffuse ses lives depuis la chambre de l'hôtel Rachid à Bardet, en Irak. Un dispositif décrit comme une mise en scène de guerre en direct. Le journaliste paraît au cœur de l'action, alors qu'il reste physiquement confiné, commentant depuis la fenêtre de sa chambre d'hôtel.
3000 mètres carrés, un étage immense dans un immense building, celui de l'agence de presse la plus puissante du monde, l'Associated Press. Peter Arnett est une des vedettes de l'agence. Il a gagné le prix Pulitzer pour son excellente couverture du conflit vietnamien. Il vient à peine de terminer un travail, son titre, Peur en Amérique.
Le même Peter Arnett, qui pourtant a subi des pressions politiques pour ses reportages jugés par l'administration américaine de l'époque, jugés trop critiques sur la guerre au Vietnam.
Peter, when were you in Vietnam? What were the years?
62 to 1970. I was based there and I spent every month there in those years.
Dans son cas, la censure qu'il a subie est passée par des pressions politiques et des tentatives de discrédit. Pire encore, les pressions médiatiques ont été les plus fortes. Celles-ci ont-elles été le point de fracture, une cassure provoquée par sa propre corporation. Ces journalistes, au même titre que d'autres, ont-ils perdu leur pouvoir quasi institutionnel en devenant les intermédiaires des discours gouvernementaux et des politiques établies? Ont-ils perdu leur contre-pouvoir en permettant à la politique de s'infiltrer dans les médias? Ou tout simplement en tentant d'influencer plutôt que d'informer? Depuis le New York Times et le Washington Post jusqu'aux principales chaînes de télévision, les grands médias ont soutenu sans réserve la guerre durant les deux premières années après le 11 septembre 2001. Dans le contrôle de la parole, l'auteur de l'ouvrage, André Schifrin, explique qu'au moment de l'attaque américaine contre l'Afghanistan, Condoleezza Rice, conseillère de Bush pour la sécurité nationale, rencontra dans le plus grand secret les dirigeants des chaînes de télévision. Elle leur fit savoir que l'administration ne voulait pas d'image des victimes civiles. Et ils acceptèrent tous cette autocensure. Toutefois, en dépit des interdits, certains journalistes ont décidé de constater de visu et de transmettre une réalité non édulcorée par les politiques. Juliana Segrena, journaliste de guerre engagée, est enlevée à Bardet le 4 février 2005. Quelques jours plus tard, la journaliste appelait dans une vidéo le gouvernement à retirer les troupes italiennes d'Irak. En guise de réponse, Berlusconi répondra: abandonner l'Irak maintenant serait une trahison des espoirs de démocratie des Irakiens. Des propos balayés par le cortège de plusieurs centaines de milliers de personnes qui a eu raison des résistances politiques.
Ceux qui ont enlevé Juliana, lorsqu'ils auront une nouvelle de cette manifestation, peut-être ils penseront qu'il doit faire quelque chose pour l'Irak et aussi pour Juliana. Faire du mal à Juliana, c'est de faire mal à l'Irak.
Avec nous à partir de Rome, Madame Juliana Segrena, merci d'accepter notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes une journaliste de guerre engagée. Vous avez été enlevée à Bardet le 4 février 2005. Tout d'abord, et pour que nos auditeurs comprennent le contexte de l'époque, racontez-nous, dans quelles conditions aviez-vous été enlevée?
C'était un vendredi et j'étais à l'université Nahrein, à l'intérieur de laquelle il y avait aussi une mosquée. Et à l'entour de la mosquée, il y avait les réfugiés escapés de Fallujah. J'étais là pour avoir une interview avec les réfugiés, pour savoir vraiment ce qui s'était passé à Fallujah. Les journalistes, ils n'avaient pas la possibilité d'aller à Fallujah. La cité était tout enfermée, en état de siège. Effectivement, j'ai parlé avec les réfugiés. fait, même si au début il était très hostile parce qu'il disait que je pouvais être une espionne et pas une journaliste. Mais finalement, les femmes qui étaient là, elles ont commencé à avoir confiance. Mmh. J'ai fait beaucoup d'entretiens avec eux. Mmh. Et quand je suis arrivée au barrage pour sortir, il y avait des voitures qui bloquaient la sortie. Ils s'étaient mis de travers et ils bloquaient la sortie. Les gardes qui normalement étaient là pour contrôler, ils n'étaient plus là. Ils étaient trois voitures et le chauffeur a commencé à s'enfuir. J'ai vu que quelqu'un lui tirait dessus. Et il y avait mon interprète qui cherchait de bloquer la porte pour qu'il ne puisse pas m'enlever. Mais finalement, il n'est pas réussi. Et il y avait ces hommes-là qui m'ont enlevé. Ils m'ont amené dans une autre voiture. Je savais que si j'allais dans ces lieux, je prenais des risques. Oui. Mais je pensais que c'était la seule façon de faire mon métier, de vraiment raconter ce qui se passait en ce moment-là en Irak. Mais finalement, les précautions que j'avais prises n'étaient pas suffisantes et je suis tombée otage de ce groupe. Ils ne sont jamais revendiqués. Mm-hmm. Mais je pense que c'était des moujahidines de la résistance irakienne à l'occupation américaine.
Ils vous reprochaient dans leurs propos de ne pas être une journaliste qui fait son travail à partir de sa chambre d'hôtel. Ils vous reprochaient de sortir trop et de parler trop aux Irakiens. Ils insistaient, expliquez-vous dans l'un de vos écrits, ils insistaient sur le fait qu'ils ne pouvaient demander au gouvernement italien de retirer les troupes et que leur interlocuteur politique ne pouvait être que le peuple italien qui est contre la guerre.
C'était ça. Il me demandait de demander au premier ministre, au chef de gouvernement, de retirer les soldats italiens de l'Irak. Il disait de le demander au premier ministre et à mon mari, surtout à mon mari. Et ça, c'était pour moi très difficile parce que ça voulait dire charger mon mari de la responsabilité de ma libération ou de ma mort. Oui. Et moi, je pensais que c'était pas à lui de décider. Mais finalement, j'ai insisté, j'ai dit, mais je veux le demander aussi au peuple italien parce qu'il y a des centaines de milliers qui manifestent contre la guerre en Italie et qui sont contre les troupes italiennes en Irak. Finalement, ils ont accepté ça et ça, pour moi, c'était important. Finalement, mon enlèvement a contribué en Italie à la lutte contre l'occupation étrangère de l'Irak. Il y a eu vraiment une manifestation de 500 000 personnes à Rome pour ma libération et pour la libération de l'Irak. Et ça, pour moi, c'était politiquement très important de le faire passer, de donner cette idée que c'était pas seulement moi qui étais otage, mais c'était un peuple en Irak qui était otage des forces étrangères.
Madame Juliana Segrena, vous avez également écrit « J'ai vécu ces jours » en parlant de votre captivité comme dans une enclave. Je me sentais faible, mes certitudes s'étaient effondrées. Je soutenais qu'il fallait raconter cette guerre sale et je me trouvais là, otage, pour n'avoir pas voulu rester enfermée à l'hôtel. Mais pendant cette captivité, comment vous en semblez les personnes qui vous ont enlevé? Vous dites que c'était des personnes qui étaient contre l'occupation de l'Irak. Qu'est-ce qui vous posait comme question? Quelles sont les conversations que vous aviez avec eux?
Je ne pouvais pas parler beaucoup avec eux pendant la journée surtout parce que je pense qu'ils se sentaient contrôlés parce que les deux gardes qui étaient dans la chambre à côté de la mienne, ils étaient jeunes et je pense qu'ils n'étaient pas les chefs de l'organisation qui avait organisé mon enlèvement, bien sûr. Mais quand même, ils étaient contre l'occupation de l'Irak, ça c'était clair parce que ça, ils me disaient toujours. Le soir, ils se sentaient moins contrôlés des gens qui venaient de dehors. Et alors, parfois, on parlait, on discutait un peu. On discutait de l'Irak, on discutait de religion, on discutait de ma vie. Je pense qu'il était un peu curieux de savoir comment une femme occidentale était en Irak seule pour longtemps pour couvrir une situation telle comme celle qui vivait l'Irak dans ce moment-là.
Madame Juliana Segrena, le plus difficile a été le jour de votre libération.
Oui.
La veille de votre libération, quelqu'un est venu vous dire « Bravo, tu vas retourner à Rome.
Ils m'ont dit, finalement, tu vas à Rome. C'était des jours que j'attendais cette nouvelle. Pour moi, c'était vraiment important. Je savais que je prenais des risques parce que la fin d'un enlèvement, c'est pas facile. Ils m'avaient dit aussi que je devais pas me faire reconnaître si quelqu'un arrêtait la voiture. Mais oui. Moi, je pouvais pas voir, mais les autres, ils pouvaient me voir. Donc, et c'était le soir, donc c'était pas normal d'avoir lunettes comme ça pour le soleil. Je devais me faire courage et je devais sortir. C'était le moment. C'était très long d'attendre les Italiens qui venaient me chercher, mais je devais attendre. Et finalement, quand ils sont arrivés, ils m'ont pris, ils m'ont mis dans une autre voiture. C'était difficile, j'étais encore choquée. Je ne pouvais pas me rendre compte que c'était la fin de mon enlèvement, même si le chef de service secret italien, le deuxième responsable de la sécurité en Italie, donc un homme très important, lui, il me disait, maintenant tu es libre, et j'essayais de me faire comprendre que j'étais libre. J'étais sur la voiture, on était en train d'aller à l'aéroport, parce qu'à l'aéroport, il y avait un avion qui nous attendait pour nous ramener en Italie. Le chauffeur, qui était lui aussi un Italien de service secret, mais qui connaissait très bien Bagdad, oui. Il a dit, on est presque à l'aéroport, mais dans ce même moment, ils ont commencé à tirer sur notre voiture. Et moi, je n'arrivais pas à comprendre qui pouvait nous cibler près de l'aéroport. C'était impossible pour les Irakiens, pour des ravisseurs, arriver jusque-là.
Madame Juliana Segrena, vous avez effectivement écrit, le chauffeur avait communiqué deux fois avec l'ambassade italienne et avec l'Italie pour dire que nous nous dirigeons vers l'aéroport, que je savais, disiez-vous, très contrôlé par les forces américaines. Nous étions à moins d'un kilomètre quand une pluie de feu et de projectiles s'est abattue sur nous. Le chauffeur a commencé à crier, nous sommes italiens. Nicolas Calipari s'est jeté sur moi pour me protéger et j'ai senti qu'il mourait. J'ai aussi senti que j'avais été touchée.
Parce que les coups arrivaient de son côté, les rafales d'une mitrailleuse qui nous tirait dessus. Et après, il s'est tué et je n'ai pas pu entendre sa voix. Il ne parlait plus. C'était terrible que des alliés des Italiens, parce que les Italiens ils étaient alliés des Américains dans la guerre en Irak. Et c'était, comme on peut dire, des tirs amicaux qu'ils avaient tirés sur notre voiture et qui avaient tué un homme très important pour la sécurité en Italie. Et pour moi, le fait d'avoir vécu sur mon corps la mort de la personne qui m'avait libérée a été peut-être la chose plus dure, plus choquante, plus traumatisante de mon histoire.
Vous rajoutez, Madame Juliana Segrena, vous rajoutez, je me suis rappelé alors ce qu'avaient dit mes ravisseurs. Ils disaient vouloir me libérer, mais que je devais faire attention. Les Américains ne veulent pas que tu reviennes. Vous ont-ils dit. Cela vous a semblé être de l'idéologie, mais ces mots ont pris la saveur d'une amère vérité.
C'est effectivement ça. Quand ils m'ont dit ça, je pensais que c'était un slogan qui contre les Américains. Mais effectivement, quand ils ont tiré sur nous, je pensais que peut-être c'était pas seulement un slogan, mais qu'ils pouvaient, ou ils savaient, ou ils pouvaient imaginer que les Américains, parce que on n'est jamais arrivé à savoir la vérité. Pourquoi les Américains, ils ont tiré contre une voiture où il y avait deux personnes très importantes de la sécurité italienne et une journaliste. Alors, c'est vrai qu'à l'intérieur des services secrets italiens, il y avait deux lignes politiques. L'une voulait sauver les otages, parce que moi, je n'étais pas la première à être enlevée, et l'autre qui ne voulait pas avoir des négociations avec les ravisseurs pour sauver les otages, et soutenait la ligne dure. Il ne faut pas traiter, sinon on soutient les ravisseurs. Le monsieur qui conduisait la voiture, le chauffeur, mais c'était aussi un homme de service secret, il a dit que peut-être il y a eu une autre arme qui a tiré entre les rafales de la mitrailleuse.
Oui.
Il y avait une autre arme qui tirait.
Oui.
Parce que qui pouvait tirer sur nous à part les troupes américaines? Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un d'autre. On a cherché d'avoir un procès en Italie,
oui.
Mais ça a été pas possible parce que l'Italie finalement a décidé que on n'avait pas le droit, on n'avait pas la juridiction pour juger un Américain pour un acte mm-hmm. qui s'était produit dans un autre pays, pas en Italie. Et
oui.
Là, c'est terminé la chance de savoir quelque chose en plus de ce qui s'était passé.
Vous aviez écrit « Le mois que j'ai vécu comme otage a probablement changé ma vie pour toujours. Un seul mois, avec moi-même, dans les premiers jours, je n'ai pas versé une larme. » Quel a été le moment le plus difficile pour vous ?
Peut-être le moment pendant le premier vidéo que nous avons enregistré, quand j'ai dû m'adresser à mon mari pour dire de me libérer, de montrer ce que j'avais fait en Irak, parce que c'était le moment où je me rendais compte que je ne savais pas s'il voulait me tuer ou pas. Mais comme Berlusconi n'allait pas retirer les troupes italiennes de l'Irak, je m'adressais directement à mon mari, mais ce n'était pas lui qui avait les moyens pour me libérer.
Madame Giuliana Segrena, en détention, vous avez été otage, mais vous avez réussi tout de même, là où beaucoup de politiques ont échoué, vous avez réussi à impliquer le peuple italien. Le peuple italien qui a obligé le gouvernement italien, lui demandant de retirer les troupes.
C'est très important, je pense que pas seulement pour moi, pour tout le mouvement pacifiste qui était encore très actif à ce moment-là, pour avancer l'opinion, la demande du peuple italien de retirer les troupes parce qu'ils étaient contre la guerre en Irak. Il y avait eu déjà des grandes manifestations avant la guerre, comme dans tout le monde. Et quand je suis rentrée, parfois, je circulais, j'étais dans le bus, dans le métro, et j'ai rencontré des gens, ils me disaient, moi j'étais là le 15 février. Malheureusement, la situation, je pense, a beaucoup changé et on est renserré à nous-mêmes les intérêts individuels et on n'a pas attention à ce qui bouge dans le monde, à tous les mouvements qui revendiquent les droits. Ça, c'est vraiment très négatif de la situation. Aussi de la presse, parce que c'est vrai, c'est dangereux, c'est risqué. Les journalistes, s'ils vont dans certains pays, risquent beaucoup. Alors les éditeurs, ils ne les envoient plus parce que c'est trop lourd, ils doivent payer des assurances trop fortes et surtout, ils prennent des risques pour les journalistes.
D'ailleurs, vous écrivez, Madame Giuliana Segrena, vous écrivez « Le pire effet collatéral de la guerre a été de détruire la communication. J'ai tout risqué, défiant le gouvernement italien qui ne voulait pas que les Italiens aillent en Irak et les Américains qui ne veulent pas que notre travail témoigne de ce qu'est devenu le pays malgré ce qu'ils appellent des élections. Et je me demande maintenant, ce refus, est-ce notre échec ?»
C'est notre échec. Finalement, ils ont gagné parce que maintenant, il n'y a plus de journalistes en Irak, au moins il n'y a plus de journalistes occidentaux, italiens, par exemple, il n'y en a pas dans les situations plus graves en ce moment. Et surtout, devrait se poser la question de comment garantir une information au moins indépendante. Parfois, on ne disait même pas de qui venait la nouvelle.
Madame Giuliana Segrena, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Giuliana Segrena est journaliste de guerre, militante engagée, spécialiste de l'Irak. Elle a été avec nous à partir de Rome.
La terreur, c'est quoi ? C'est de diriger via la terreur physique des populations.
Les actualités géopolitiques internationales tendent à reléguer au second plan des drames humains profonds et persistants. Cela pose la question des priorités censées être collectives. Une hiérarchisation qui tient à distance et met en sourdine les souffrances pourtant dénoncées par l'ONU et les défenseurs des droits humains. Les intérêts économiques sont priorisés et leurs enjeux stratégiques martelés par des couvertures intensives. La guerre au Soudan, par exemple, avec des millions de déplacés et une famine imminente, reçoit bien moins d'écho qu'une déclaration qualifiée de stratégique, étouffant ainsi des crises pourtant visibles.
Tous les matins, on commençait par rassembler des corps à l'extérieur de la rue. Tout d'abord, il fallait les compter. Nous chargions les corps dans un camion, les uns sur les autres, comme des marchandises.
La situation humanitaire en Palestine, particulièrement en Gaza, est l'un des drames les plus graves et persistants, souvent sous-estimés malgré sa gravité extrême dans le concert des actualités internationales. En dépit du cessez-le-feu annoncé en octobre 2025, 449 Palestiniens ont été tués et 1446 blessés, avec des attaques continues sur des abris et des zones résidentielles.
Ceasefire in Gaza is fragile.
Le cessez-le-feu à Gaza est fragile, il a été violé à plusieurs reprises, mais il tient bon. Et j'appelle instamment à ce que le cessez-le-feu soit pleinement respecté.
La pauvreté a explosé, passant ainsi en quelques semaines de 57% à 96%, avec une perte de 25,8% du PIB, produit intérieur brut palestinien, en 6 mois. Les médias priorisent les enjeux géopolitiques impliquant des puissances occidentales, reléguant Gaza au rang de crise chronique. La priorisation des situations géopolitiques par les médias et les décideurs reflète des choix qui influencent profondément l'ordre mondial, souvent au détriment de crises humanitaires moins visibles.
Moi, je ne comprends pas pourquoi vous trouvez que l'État d'Israël n'est pas terroriste.
Non,
moi, je trouve que la terreur, c'est quoi? C'est de diriger via la terreur physique des populations.
Par le fait de leur enjeu stratégique, les conflits impliquant des puissances majeures dominent les titres, générant plus d'audience et de revenus publicitaires. Cela crée un effet CNN où la couverture en direct oriente les politiques internationales, marginalisant de fait des drames comme ceux au Soudan, en Palestine ou encore en RDC.
C'est une honte de recevoir des criminels de guerre sur les plateaux. Aujourd'hui, les représentants du gouvernement israélien sont des criminels de guerre.
Il semble en effet que les faiseurs de l'information priorisent les crises selon des critères bien établis, souvent dictés par des logiques économiques, mais aussi culturelles, hélas, qui expliquent pourquoi certains drames humains passent inaperçus, ou en tout cas semblent être moins importants que d'autres.
À ce programme, Montad al-Zaidi, journaliste à la télévision irakienne, candidat aux élections législatives en Irak en 2018. Montad al-Zaidi a été condamné à 3 ans de prison pour avoir jeté ses chaussures sur le président George Bush. C'était lors d'une conférence de presse en décembre 2008. C'était à Bagdad. Giuliana Segrena, journaliste italienne enlevée par un groupe armé en Irak en février 2005. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Haheli. Mrim Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 17h. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.